Alors, ouvrez vos Bibles. On s'en va dans le livre d'Exode. Si vous n'avez pas une Bible, c'est une bonne habitude ici. Apportez une Bible ou empruntez-en une en arrivant à l'entrée. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le livre d'Exode? Puis, vous allez voir, ce matin, on traverse les chapitres 5 à 11. Alors, on va voir deux petits extraits que Julie va nous lire, mais on ne peut pas lire, évidemment, tous ces chapitres-là. Là, ça prendrait l'essentiel du service, d'accord? Alors, on ne fera pas ça, on va lire des extraits. Mais c'est simplement pour souligner l'importance pour vous de suivre le plan de lecture et de prendre le temps de lire ces passages-là. Volontairement, on survole un livre qui a 40 chapitres en 13 exposés bibliques parce que ça nous permet de voir certaines choses. On va avoir une série pendant les fêtes. On va passer 4 dimanches dans 14 versets. Ça va être complètement l'opposé, d'accord? Mais volontairement, c'est ça qu'on fait avec Exode. Alors, ce matin, on couvre ces chapitres-là. Qu'est-ce qu'on a vu dans les semaines précédentes? On a vu que le cœur de Dieu a été touché parce que Dieu a entendu les cris d'Israël. Israël qui n'est pas vraiment encore une nation, mais c'est la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, est en esclavage en Égypte. Et le cœur de Dieu a été touché. Et puis Dieu a entendu leurs cris. Et Dieu a conçu un plan, il l'a projeté, un plan qu'il avait conçu de toute éternité, mais qu'il met en œuvre là. Et il veut les libérer. Alors ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'il a préparé un messager. Il est une belle figure, une belle image de la personne de Christ qui vient plus tard, d'accord? Moïse, il l'a préparé, il l'a mis à l'écart, puis il lui a donné la mission qu'il a à accomplir. Puis Moïse avait des questions, vous vous rappelez? Des grosses questions, pourquoi moi? Est-ce que je suis à la hauteur? Je pense que tu peux envoyer quelqu'un d'autre. Toutes ces questions-là, Dieu donne essentiellement une réponse. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi? Je vais être avec toi. Je vais être avec toi. Arrête de me parler de Moïse. Arrête de me parler de Bruno, de Suzy, de Stéphane. Arrête de me parler de Jessica. Arrête de me parler de Yannick. Parle-moi de Dieu. Dieu va être avec toi. Et c'est ça. C'est ça qu'on est comme Église. Dieu nous a placés ici pour atteindre avec le message de l'Évangile, le Grand Longueuil, la Montérégie. On n'est pas ici simplement en attendant que Jésus revienne. On est ici avec une mission. Et on va avoir un cœur comme celui de Dieu pour entendre le besoin des gens de recevoir l'Évangile, d'être libéré de l'esclavage du péché. Et peut-être qu'on se sent bien petit dans cette tâche-là, mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il nous le montre à tous les dimanches. Dieu est avec nous. Et non seulement Dieu est avec nous, mais rappelez-vous, à côté de Moïse, il y a qui? Il y a Aaron. Et donc, on est tous des Aaron les uns pour les autres dans cette mission-là. Et on est là pour faire cette œuvre-là ensemble, se lancer ensemble. Ce matin, on arrive dans une nouvelle portion. Moïse commence à passer à l'action. Il va aller se présenter devant le roi d'Égypte, devant Pharaon. Puis il va dire à Pharaon, « Tu dois laisser tes esclaves, ta main d'œuvre, ton cheap labor. Tu dois les laisser partir parce qu'autrement, ça va chauffer ici, mon homme. » Et Pharaon, avec énormément d'arrogance, va lui tenir tête. Et dans ce passage-là, Dieu va durement éprouver l'Égypte. On va voir pourquoi. Et on va terminer ce matin avec la neuvième plaie d'Égypte. La semaine prochaine, on rentre dans la dixième où Pharaon va céder puis va laisser aller le peuple. C'est bon? On va prier ensemble. Père éternel, nous sommes assemblés pour te connaître. Seigneur, la majorité d'entre nous, dans notre cœur, on sait à quelque part qu'on te connaît parce qu'on a compris l'Évangile, on connaît Jésus-Christ. On te connaît, Dieu. Puis en même temps, un peu comme Moïse, qui te connaissait, mais ne te connaissait pas tant que ça, lorsqu'il a voulu commencer à faire ta volonté, il a réalisé qu'il y avait encore beaucoup à apprendre sur toi. Alors, Père, ce matin, on est ici pour te connaître. On est ici pour connaître notre Créateur, connaître notre Sauveur, Jésus-Christ. On est ici pour apprendre à marcher avec toi. Et Père, ta parole nous révèle que nos cœurs sont des usines à idoles, des fabriques d'idoles. On prend les meilleures choses que tu nous donnes, puis on fait de cela le centre de notre vie, que ce soit l'amour, que ce soit notre carrière, que ce soit les biens matériels, que ce soit notre petit moi qui devient tellement gros, qui est au centre de notre univers, Seigneur. Alors ce matin, Père, je te demande, viens nous parler de toi et des idoles qui peut-être sont venues se placer entre nous et toi, Seigneur, dans notre marche. Parce que c'est toi que nous voulons connaître. Toi, notre Dieu, que nous voulons suivre. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre d'Exode, au chapitre 5, versets 1 à 8, chapitre 5, versets 15 à chapitre 6, verset 2, et chapitre 11, versets 1 à 10. dans la version édition second 21. Alors, Exode, chapitre 5, versets 1 à 8. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon. « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. » Le pharaon ajouta, « Ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses corvées? » Le jour même, le pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant, « Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Exode, chapitre 5, verset 15 à chapitre 6, verset 2. Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon en disant « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne pas de paille à tes serviteurs et l'on nous dit « Faites des briques. » Et voici que tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. » Le pharaon répondit, « Vous êtes des paresseux, rien que des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On vous ne donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant, « Vous ne supprimerez rien de vos briques, mais accomplissez chaque jour la tâche journalière. » En sortant de chez le pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron, qui les attendaient. Ils leur dirent, « Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » L'Éternel dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel. » Exode, chapitre 11, versets 1 à 10. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Dis au peuple de demander chacun à son voisin et chacune à sa voisine des objets en argent et en or. » L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Moïse annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siège sur son trône jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille à la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura plus de pareil. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs ici présents descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. » Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel avait dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes miracles soient nombreux en Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon. et celui-ci ne laissa pas les Israélites partir de son pays.
Merci, J. La question la plus importante que l'être humain peut se poser dans sa vie, c'est quoi selon vous? Intéressant, dans le passage, cette question-là est posée avec arrogance par Pharaon. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Qui est l'Éternel pour que je doive le servir? C'est la question la plus importante pour tous les êtres humains. Parce que de ma réponse à cette question-là, que j'aboutisse n'importe où, que je crois dans l'existence de Dieu, que je ne crois pas dans l'existence de Dieu, que je découvre le Dieu de la Bible ou que je me fabrique une idole, de la réponse à cette question-là vont découler plein de décisions dans ma vie. Ça va donner le sens à mes journées, à mon quotidien, mes choix de vie, mes choix dans des moments difficiles. De ma réponse à cette question-là, qui est ton Dieu, plein de choses vont dépendre. Des choix moraux où il n'y a pas de morale, parce qu'il n'y a peut-être pas de Dieu. Qui est ton Dieu? C'est la question la plus importante pour celui qui n'a pas connu le Dieu des Saintes Écritures. Ce que je trouve intéressant dans ce passage-là, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est aussi la question la plus importante pour quelqu'un qui sait qu'il connaît Dieu. Parce que dans le fond, quand je me lève le matin comme chrétien, c'est quoi la chose la plus importante à laquelle je peux répondre? Qui est mon Dieu aujourd'hui? Qui est mon Dieu quand j'ai une décision difficile à prendre? Qui est mon Dieu? Quand j'ai un choix déchirant à faire, qui est mon Dieu? Qui est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Est-ce qu'il est là avec toi? Qui est ton Dieu? C'est vraiment intéressant. Ça demeure toujours la question la plus importante, que je connaisse Dieu ou non. Et ce matin, on va voir ensemble que justement la plus importante de toutes les questions sera toujours qui est ton Dieu, et connaître Dieu et l'honorer en tout temps, même dans l'épreuve, c'est la plus importante des leçons. C'est la plus importante des questions, c'est qui est ton Dieu? La plus importante des leçons, c'est d'apprendre à le connaître, même dans l'épreuve. Et il y a cette espèce de paradoxe-là dans ce passage où il y a Pharaon qui ne connaît pas Dieu et qui questionne qui est Dieu, et Moïse qui est en train d'apprendre à connaître Dieu. Le peuple d'Israël qui est en train de découvrir Dieu, parce que c'est ça l'histoire d'Israël. C'est l'histoire d'un peuple qui est appelé par un Dieu qu'ils vont apprendre à connaître. Et on va les suivre à travers ces 40 chapitres-là, alors qu'ils découvrent vraiment qui est Dieu et qu'ils apprennent à marcher avec Dieu. Qui est ton Dieu? Moi, il se présente devant Pharaon pour lui dire quelque chose qui peut avoir l'air extrêmement arrogant. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Dans le fond, vous avez un gars qui s'est poussé en courant, qui n'a aucune renommée dans le pays à ce moment-là. Ça va venir plus tard. Lorsque Julie a lu la dernière section, c'est après les plaies. D'accord? On est très avancé, puis là, ça va être quelqu'un d'autre. Mais la première fois, lorsque Moïse se présente devant Pharaon, t'es qui, toi, pour me dire que ma main d'œuvre, qui me coûte rien, dont je peux abuser à souhait, une main d'œuvre tellement nombreuse que si elle devait se révolter, il pourrait renverser possiblement le pays s'il faisait alliance avec des adversaires. Ce serait un cheval de Troie à l'intérieur du pays pour nous renverser. Et Moïse se présente devant Pharaon puis il dit, là, tu vas nous laisser partir. Pour 3 jours, ce qui veut dire on s'en va, les amis. D'accord? Quand vous avez 600 000 hommes qui vont se lever et qui vont partir avec femmes et enfants pour aller adorer au désert 3 jours, ils sont partis. Puis Pharaon, avec arrogance, mais en même temps, mettez-vous dans sa peau 2 secondes, t'es le roi d'Égypte, puis t'as cette espèce de bozo-là qui se pointe devant toi, puis il dit, en passant, Dieu m'est apparu, puis il m'a dit que c'est fini mon homme, vous allez vous-même faire vos briques. On ramasse plus votre foin, on s'en va. Non, sérieux, t'es Pharaon. Alors avec assurance, puis avec arrogance, Pharaon dit, au verset 2, 5, 2, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? » C'est pas une vraie question, on s'entend? « Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » C'est une provocation. Tu veux qu'on se rencontre? Tantôt après l'école, on va les régler ça ensemble. Tu montres ton Dieu. On va voir ça. On va voir ça. La manière que Pharaon pose la question, c'est, suivez-moi bien là, c'est la manière que quelqu'un qui croit être Dieu, ou au moins être le juge des dieux, être celui qui peut déterminer qui est Dieu, pose la question. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à la manière que la question est posée par nos contemporains où chacun d'entre nous, avant de connaître Christ, probablement on la posait. Mais qui pourrait être Dieu? Je veux dire, il faut au moins qu'il me donne des justifications. Pourquoi? Moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Je me souviens, ma période au cégep, c'était comme, pourquoi lui plus qu'un autre? Il y a quand même plein d'autres options. J'allais lire d'autres affaires, d'autres religions. Pourquoi cette affaire-là? Puis je suis intelligent, tu sais. Pourquoi je ne pourrais pas comme René Lechaud moi-même? Après tout, j'ai-tu vraiment besoin d'un Dieu? Puis c'est ça la question de Pharaon. Maintenant, il faut savoir, juste pour se remettre dans l'époque, pour se replacer à cette époque-là, dans ce moment-là, Pharaon, d'abord, adorait toutes sortes de dieux. Leur système d'adoration était très, très, très structuré. C'était un système qui était une approche, une religion qui était, je dirais, dans un sens animiste, c'est-à-dire qu'ils prenaient des éléments de la nature, puis ils en forgeaient des idoles, puis ils les adoraient, le dieu soleil, le dieu du Nil. Et pour ajouter à cela, comme si Pharaon était un petit peu en avance sur son époque, bien, dans la mythologie égyptienne, le pharaon, c'était un dieu, c'était un demi-dieu, c'était en fait le fils du roi soleil, du roi Ré. Alors, pendant une partie, là, l'Égypte ancienne a eu son règne assez longtemps, avec un grand nombre de pharaons, puis ça a évolué au niveau de la conception. Qui est le pharaon? Mais au départ, c'était cette idée-là. C'est qu'il est un dieu lui-même. C'est un dieu-homme qui est le fils du roi soleil. Vraiment intéressant les parallèles avec Jésus, mais je n'irai pas là-dedans matin, d'accord? Et donc, il est un dieu. Non seulement il connaît les dieux qui ont installé l'Égypte, puis l'Égypte est en train de régner à cette époque-là, puis c'est un fils d'esclave qui s'en vient me voir pour me dire que je devrais comme obéir à son dieu. Non seulement ça, non seulement il y a un système de divinité super structuré qui les a, dans leur compréhension, amenés tellement loin, est une super puissance. Mais lui-même, quand il se regarde dans le miroir, il est le fils du Dieu soleil. Il est lui-même un Dieu. Il était adoré par son peuple. Et donc, il pouvait juger de toute chose, à savoir si elle était bonne ou mauvaise, si on devrait y obéir ou non. C'est comme s'il était un petit peu en avance sur son temps. C'est comme si c'était un occidental. Dans le fond, c'est ça qui se passe avec l'Occident. Hein? En Occident, on a eu une espèce de démocratisation de la divinité. Avant, il y avait Dieu, puis il y avait les êtres humains, puis l'Occident pensait à la lumière d'une vision chrétienne du monde. Il y a un Dieu, on est des serviteurs de Dieu, on est des créatures de Dieu, des êtres magnifiques, mais au service de Dieu. Puis là, l'être humain a commencé à se dire, non, mais peut-être pas en fin de compte. Peut-être que tout ce qui est raisonnable, c'est ce qui est admissible à ma raison, puis peut-être que moi, je vais déterminer ce qui est bon, puis ce qui est mauvais, puis ce qui est bien, puis ce qui est mal, puis qu'est-ce qu'on peut admettre ou pas admettre, puis est-ce qu'on a le droit de tuer un enfant, pas tuer un enfant, est-ce qu'on a le droit de s'euthanasier, est-ce qu'on a le droit au suicide? Finalement, je suis maître sur ma vie, je suis maître sur ma destinée, je suis maître sur tout. En fin de compte, je suis Dieu. Au minimum, si je ne suis pas Dieu, je suis au moins le Fils de Dieu au centre de l'univers. Dieu m'aime beaucoup. Dieu est amour et il veut que je sois profondément heureux, puis il m'a confié ma vie sur la terre. Voyez-vous, il n'y a pas tellement de différence. Et il y a cette espèce d'arrogance chez Pharaon qui dit, mais qui est Dieu pour que je le serve? Dans le fond, je n'ai pas besoin de le servir. Puis les chrétiens, on est habitués de se faire interroger. Israël se faisait interroger. On lit dans le psaume 115, verset 2, « Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? » « Et où ton Dieu? C'est qui ce Dieu-là? » Et voici ce qu'on lit dans la suite du passage, psaume 115, verset 2 à 8. « Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Tu peux poser la question, mais si la réponse à ta question, qui est Dieu, ce n'est pas le Créateur des cieux et de la terre, tu as dévoué un culte à des idoles que tu as imaginées. En te regardant dans le miroir, tu t'es dit, « Ne suis-je pas aussi brillant que tous les hommes? Je vais me concevoir un Dieu. » Puis si tu es un bon occidental, ben, en gros, probablement que c'est toi ton Dieu. Tu es au centre, puis tu dis, « Je contrôle ma vie, je contrôle ma destinée, je m'en vais me réaliser. » Puis peut-être qu'un jour, là, c'est les nouveaux développements éthiques de la société, quand tu arriveras au terme de ta course, puis tu diras, « En fin de compte, je ne suis pas un grand Dieu. » Si tu n'as pas découvert le Dieu de la Bible, ça se peut que tu dises, « Mais je pense que ma course s'arrête ici. » Tu vas aller voir le médecin, tu vas lui demander une petite pilule, tu vas prendre ta pilule, puis tu vas t'endormir. En ayant passé à côté de ton Créateur, qui est le Dieu des cieux, qui veut te connaître. Mais la question n'est pas juste bonne pour celui qui ne connaît pas personnellement Dieu. La question demeure importante même pour celui qui connaît Dieu. Parce que c'est intéressant dans le passage, on a Moïse qui vient de rencontrer Dieu au désert. Dieu lui a donné un mandat super clair. Moïse est obéissant, il s'en va devant Pharaon. Vous avez comme, là, les chrétiens l'ont allumé, là, vous avez comme le gars qui est bullseye dans la volonté de Dieu. Dieu dit, tu vas faire ça. Moïse, il dit, yes, sir, après avoir discuté, blablabla, tout ça. Mais il s'en va, tu sais, tu peux pas être comme plus dans la volonté de Dieu. Fait qu'il est dans la volonté de Dieu, il s'en va se présenter devant Pharaon, il fait, en gros, si on allait un petit peu plus dans les détails, il twiste un peu tout ça, mais il s'en va là, puis il veut faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Pharaon part à rire, il dit, tu penses? Attends un petit peu, on va doubler la charge. Je trouve que vous commencez à être arrogant, vous êtes rendu avec des représentants syndicaux. Vous n'en avez pas de syndicat ici. Vous êtes des esclaves. Vous n'aurez pas de représentant syndical. Vous allez le lapider vous-même. Regardez, là, vous m'avez envoyé votre représentant syndical. Je monte la charge, double les heures, plus de salaire. Allez ramasser les affaires vous-même. Le peuple se révolte, sort de là frustré, rencontre Moïse. Qu'est-ce que tu nous as fait? Ah, Moïse s'arrache les cheveux, il ne comprend plus rien. J'ai fait la volonté de Dieu. Au moins, il se tourne vers Dieu. Il l'a rencontré, il le connaît, il se tourne vers Dieu. Exode 5, 20, 21. En sortant de chez Pharaon, il rencontra Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Pour ça, il est en train de faire la volonté de Dieu. Moïse s'en va crier à Dieu, verset 22-23, « Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? » Dans le fond, il est en train de dire, « Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, je précise, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » C'est comme le cas typique du gars qui dit « Aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Jésus. Demain, tout va bien aller. »« Hey, je me suis converti, puis le lendemain, tout va bien aller. Mes problèmes vont se régler. » Moïse a rencontré Dieu au désert, mais il ne connaît pas Dieu encore. Et il va devoir apprendre à connaître le Dieu qui promet, le Dieu qui accomplit ses promesses, le Dieu qui honore son alliance, le Dieu qui est fidèle. Et Moïse a besoin d'apprendre ça. Parce que là, il y a des questions. Là, il s'en retourne et il dit, « Mais je ne sais pas finalement qui est mon Dieu. » La question de Pharaon est totalement pertinente. Parce que mon Dieu m'a dit d'aller faire ça et qu'elle allait les délivrer. Puis là, ça a l'air juste de déraper cette affaire-là. Fait, je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas si tu as pris la décision de faire la volonté de Dieu dans un domaine spécifique de ta vie, dans ton couple, dans ton foyer, dans des relations, dans ton avenir. Tu es en train de voir où tu t'en vas dans le futur, puis tu as décidé que tu voulais marcher avec Dieu. Avant, c'était un peu n'importe quoi, mais là, tu as mis de l'ordre dans ton affaire, tu sais. Puis là, tu dis, je sers Dieu, je me lève le matin, puis tout ce que je veux, Seigneur, c'est ta gloire, Seigneur. Puis en passant, ça devrait se passer comme ça. Parce que tu vas vraiment être glorifié. Puis à la fin de la journée, je vais dire, « Gloire à ton nom, Seigneur. » Là, Dieu dit, « Mais vas-y, Maintenant, je vais t'apprendre à marcher par la foi. Je vais t'apprendre à suivre le Dieu des promesses, le Dieu qui respecte ses promesses. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu es, mais une des leçons les plus importantes de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à marcher par la foi en s'appuyant sur les promesses de Dieu. On va terminer l'exposé tantôt en regardant les promesses qu'il donne à Israël, qui ont vraiment, c'est des parallèles avec les promesses faites pour les chrétiens. Mais c'est super important. Si tu as découvert le Dieu de la Bible, si tu as découvert l'Évangile, si tu as découvert Jésus-Christ, maintenant, une des leçons les plus importantes de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à suivre par la foi le Dieu des promesses. Parce que nous marchons par la foi encore aujourd'hui. Et si vous voyez des gens autour de vous, des chrétiens qui persévèrent à travers les années, qui sont fidèles, vous les voyez se préparer à la rencontre de Dieu, puis ils sont fidèles, ils ont persévéré, bon an, mal an, à travers les difficultés, les bénédictions, les épreuves. Ce sont des gens qui ont appris à suivre le Dieu des promesses. Ils ont appris à marcher par la foi en sachant que Dieu est fidèle. Et ça, c'est une dimension super importante de la vie chrétienne. J'apprends à lire les Écritures pour connaître Dieu, mais pour connaître le Dieu qui promet. Et j'apprends à marcher par la foi en le suivant, en m'appuyant sur ses promesses. Et si ta vision de la vie chrétienne, c'est celle que Moïse avait à ce moment-là, où « Wow! J'ai fait une rencontre avec Dieu! Bam! Ça a changé ma vie du jour au lendemain, je ne suis plus la même personne, je suis rendu devant Pharaon, j'ai plein de courage, je suis prêt à faire n'importe quoi, Seigneur, on va gagner ensemble! » Puis à un moment donné, tu te dis « Mais t'es où? Je suis là. Non, mais je te vois pas, j'ai pas eu la victoire que j'attendais. » C'est parce que tu es en train de suivre les promesses de Dieu, le Dieu des promesses. Il va être fidèle. Il est en train de te faire grandir. Il est en train de se faire connaître à toi. La plus grande des questions, qui est ton Dieu? La plus grande des leçons, connaître Dieu. Connaître ce Dieu-là, une fois que je l'ai découvert. Et on est tous appelés à répondre à cette question-là, à cette grande question-là. Qui est ton Dieu? Peut-être comme Pharaon, estimes-tu que c'est toi le Dieu de ta vie, puis tu as besoin de découvrir le Dieu de la Bible, ou peut-être que tu as connu Dieu. Dieu s'est révélé à toi par sa parole, tu connais Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors quand tu fais la volonté de Dieu à tous les jours, demain matin, là, tu dis « Ok Seigneur, on y va par la foi. » La question demeure encore. Quand Dieu va éprouver ta foi, qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Et puis Dieu entre en conflit avec Pharaon. Il va y avoir quelque chose d'un peu frustrant ce matin parce que volontairement, je décide de survoler tout ça. Mais ce qui va se passer dans la suite des chapitres, c'est que Moïse va se représenter à plusieurs reprises. Il va aller se présenter à nouveau devant Pharaon. Puis il va lui annoncer, si tu n'obéis pas, il y a une plaie qui va venir. 10 plaies vont frapper l'Égypte. Et plus on va avancer, plus elles vont grandir. C'est vraiment des interventions surnaturelles de Dieu, des miracles qui se passent. Mais au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus éprouvant pour l'Égypte. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de faire ça? Si Dieu est capable de faire ces 10 miracles-là, les 10 plaies d'Égypte, si Dieu est capable de ressusciter Jésus d'entre les morts, pourquoi est-ce que Dieu a fait cette espèce de drôle d'exercice-là avec l'Égypte? Il aurait pu tout simplement, je sais pas, moi, tu sais, un matin, Dieu il dit, préparez-vous, faites vos bagages, demain matin, je sors ma zapette, pause. Il n'y a plus un Égyptien qui bouge. Puis il y a juste les Israélites qui, eux autres, merci pour le café. Je m'en vais. Je disais, il aurait pu le faire comme ça. Pourquoi est-ce qu'il est rentré dans ce processus-là où, comme devant Pharaon, on recommence? Il est en train de révéler qui il est. L'expression qui revient le plus souvent dans tous ces chapitres-là comme une répétition, « afin qu'il sache ». Regardez Exode 7:5, je vous le lis rapidement. « Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. » C'est vraiment intéressant dans ce passage-là. Dieu ne cherche pas à se faire connaître seulement au peuple d'Israël. Après tout, c'est Israël qui a choisi. C'est la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu aurait pu décider de se révéler seulement à eux. Et Dieu ne veut pas simplement se faire connaître à eux, il veut se faire connaître aux Égyptiens aussi. Mais ils n'étaient pas prêts à le reconnaître, ils n'étaient pas prêts à reconnaître Dieu comme étant le vrai Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il entre en conflit avec eux et progressivement, à travers les plaies, on peut établir plusieurs parallèles avec certaines de leurs divinités, d'accord? Le Dieu du Nil, le Nil va être changé en sang. Et progressivement, Dieu va se faire connaître. Dieu veut se faire connaître à tous les hommes. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit dans Matthieu 7:7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » En s'adressant plus directement à Israël, Dieu dit à travers le prophète Jérémie dans Jérémie 29:13, « Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu veut se faire connaître. Il se fait connaître à travers la nature. Si on veut être bien honnête, Dieu nous a parlé à travers des circonstances de nos vies. Quelqu'un est venu nous voir, nous a exposé les Écritures, nous a parlé de Jésus-Christ. Dieu veut se faire connaître. Maintenant, Dieu va répondre de deux manières différentes. À celui qui accepte de le chercher, Dieu va se faire connaître vraiment personnellement. Et il va devenir ton Dieu. À celui qui va résister, Dieu, à un certain moment donné, on a plusieurs indices dans les Écritures, peut aller jusqu'à endurcir le cœur. Comme tu le fais avec un enfant à un moment donné où tu dis « Fais pas ça, tu vas te faire mal. Fais pas ça, tu vas te faire mal. » Puis on est dans ta tête, tu te dis « je pense qu'il y a vraiment besoin de se faire mal. » Puis à un moment donné, tu te dis « Ben, tu veux que je te passe le briquet? Je vais aller prendre une marche. Je te passe les ciseaux, OK? Coupe plus loin, tu veux garder des petits bouts pour plus tard. » Il y a quelque chose de troublant dans ce passage-là qui nous parle de la souveraineté de Dieu sur le cœur humain. Puis, je ne défile pas tous les chapitres un à un, d'accord? Pharaon, je l'ai illustré par la question qu'il pose, est déjà déterminé à rejeter Dieu. Il est arrogant, il veut déjà rejeter Dieu. Maintenant, on lit dans Exode 7, 3 et 4, « Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai les signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées. » Dans Romains, Dieu dit qu'il peut livrer l'homme à lui-même. Puis, je ne suis pas là pour vous sortir des fantômes et vous faire peur. Je suis là simplement pour dire que Dieu a choisi qui revient à chaque homme, à chaque femme sur la terre, de prendre la décision personnelle, à savoir si je vais reconnaître Dieu et je vais le servir ou si je vais rejeter Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu, les amis. Alors, vous pouvez le faire, c'est à votre péril. Parce qu'il se peut très bien que Dieu décide de dire, « Mais je te livre à toi-même. Je te livre à toi-même. Tu es arrogant, je te livre à toi-même. Et j'arrête de te courir après, mon ami. » Et après ça, tu récolteras tout ce que tu auras semé dans ton arrogance. Mais à celui qui le cherche, Dieu va se révéler. Et à Israël, Dieu va se révéler à travers le Dieu des promesses. Et on va terminer avec ça ce matin. Je vous lis trois versets dans Exode 6, 6 à 8. Parce que Dieu veut se révéler aux Égyptiens à travers les plaies. Il se révèle comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais il se révèle à Israël comme le Dieu des promesses, le Dieu aimant, qui veut secourir et qui veut bâtir. Et regardez bien ce qu'on lit dans Exode 6, 6 à 8. C'est pourquoi « Dis aux enfants d'Israël, » Dieu est en train de parler à Moïse, « dit, va leur dire ça, va les rassurer. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous donnerai en possession, je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » On va le voir au fur et à mesure des semaines, mais l'histoire d'Israël, c'est une métaphore. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'un peuple qui a été choisi pour être sauvé, pour apprendre à connaître Dieu, marcher avec Dieu, libérer de l'esclavage et être conduit dans la terre promise. Mais la suite de l'histoire nous révèle que leur véritable esclavage, j'insiste là-dessus depuis le début, parce que comme chrétien, si je veux aller puiser dans Exode, j'ai besoin d'aller là. La suite de l'histoire d'Israël nous apprend que leur véritable esclavage, ce n'était pas celui de l'Égypte. C'est celui qu'il y a dans leur cœur. Parce que dans leur cœur, ils sont pécheurs. Et ils ont besoin d'être affranchis d'un autre esclavage. Et regardez bien, lorsque je prends ce passage-là, que je saisis qu'Israël est une métaphore, est une illustration d'une plus grande rédemption, un plus grand salut, une plus grande libération qui allait venir à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. « Je vous rachèterai, Dieu dit à Israël. » Mais on lit dans Galates, dans le Nouveau Testament, versets 4 et 5, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption. » Parce qu'on n'est pas capable. Dieu va donner la loi à Israël. Israël ne sera pas capable d'obéir à la loi, parce que dans leur cœur, ils sont esclaves du péché. Et la loi pour eux est juste une condamnation. Mais à nous qui avons cru en Jésus-Christ, on est libérés parce qu'on est graciés. On sait que Jésus-Christ a satisfait la loi, que moi, j'y arriverai jamais entièrement. Je vous adopterai. On lit dans Jean 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, de devenir enfants de Dieu. Et si Israël est devenu le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'Israël de Dieu, parce qu'on a cru en Jésus-Christ. Je vous donnerai un héritage, on lit dans 1 Pierre 1, 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, pour la résurrection de Jésus-Christ, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les temps derniers. Aujourd'hui, on marche par la foi. Mais par la foi en quoi? Dans le retour de Christ, qui va nous conduire dans cette terre promise, où on va vivre vraiment en communion avec lui, libérés entièrement du péché. Libéré d'un monde qui n'est pas en train de le servir, mais uniquement avec ceux qui sont en train de le servir et de l'adorer. Ceux qui ont été adoptés, qui sont devenus ses enfants. Ceux qui ont été affranchis. Et c'est là notre espoir. La plus grande des questions à laquelle tu peux répondre, c'est qui est ton Dieu? Cette question-là est suprêmement importante si tu ne connais pas Dieu. Parce que tu es probablement en train d'adorer un Dieu que tu as formé toi-même. Avec ton imagination. Tu es en train d'essayer de te réaliser à travers ton culte à ce Dieu-là. Que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, la carrière, toi-même, ton ego, réussir, la paix dans le monde, sauver la terre. Puis ça, c'est ta cause. Puis, ça, c'est ton Dieu. Je comprends. Mais il y a un Dieu plus grand que celui-là. Tous ces dieux-là sont trop petits. Ils ne peuvent pas contenir celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui t'a créé. Et celui-là veut se révéler à toi. C'est la plus grande des questions. Et si tu l'as connu, ça demeure la plus grande des questions. Quand tu te lèves tantôt et tu te dis, est-ce que je veux marcher avec Dieu? Est-ce que je veux faire le bon choix? Je sais qu'est-ce que Dieu me demande dans sa parole, mais c'est dur, c'est déchirant. Il veut que je marche par la foi. Quand est-ce que je vais avoir des réponses? Quand est-ce que ça va marcher? Oui, mais c'est dur, ça veut dire qu'il faut que je cède, il faut que je m'humilie, je demande pardon. Je sais c'est quoi sa volonté, mais c'est dur. Qui est ton Dieu? Parce que la plus grande des leçons que tu peux apprendre, c'est celle que Moïse est en train d'apprendre. Qui est Dieu? C'est le Dieu des promesses. Et j'apprends à le suivre en m'appuyant sur ses promesses. Je termine avec ceci. Dans Exode 6:6, il est écrit, « Je vous délivrerai de la servitude, je vous sauverai à bras étendus. » Et à travers ces six chapitres-là, on voit Dieu déployer la puissance de son bras à travers les dix plaies, manifester sa puissance, démontrer qu'il est supérieur à tous les dieux que les êtres humains peuvent concevoir. Et il dit, je vais le faire à la puissance de mon bras, à bras étendus. Puis quand j'ai lu ce verset-là, c'est à ces bras-là que moi je pensais. C'est à ces bras-là que je pensais. Au bras de Jésus-Christ. Parce que c'est à la puissance de ce sacrifice-là sur la croix que nous avons été libérés, que nous pouvons être libérés en croyant dans son sacrifice sur la croix, de l'esclavage du péché. Et on peut être adopté, devenir ses enfants et apprendre à marcher par la foi, parce que nous croyons non seulement qu'il est mort sur la croix, mais qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il nous prépare une place auprès de son Père et qu'il est avec nous aujourd'hui par son Esprit. Qui est ton Dieu? Est-ce que tu le connais bien? On va prier ensemble. Père éternel, je veux te connaître, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te connaître au jour de l'épreuve. Je veux te connaître alors que les doutes concernant tes promesses viennent dans mon cœur. Je lis les Écritures, puis des fois j'ai le sentiment que c'est le Dieu du passé qui faisait ces choses incroyables en Égypte. Mais je me pose la question, où est passé ce Dieu des miracles? Et j'apprends, Seigneur, à m'appuyer quotidiennement sur tes promesses, reconnaissant que notre signe à nous, chrétiens, c'est celui qui a été donné à Jonas, qui a été 3 jours dans le poisson, puis qui est sorti. C'est Christ qui a été mis en terre, qui est ressuscité d'entre les morts. Et j'apprends à marcher par la foi en reconnaissant que tu t'es révélé à moi. Ma vie n'est plus la même. J'ai connu Jésus-Christ. J'ai connu le Dieu éternel, le Dieu qui demeure. Et j'apprends aujourd'hui à te connaître à travers les épreuves de la vie, Seigneur. Je veux te suivre parce que tu es merveilleux. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.